Kayathonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 15. Écrire Linua Imun en espagnol, la traduction de Questipan de Naomi Fontaine avec Anna Kansipolsky-Tekman. Étudiante à la maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal, les recherches d'Anna Kansipolsky-Tekman portent sur l'étude de phénomènes d'écriture et de traduction d'œuvres littéraires contemporaines issues des femmes des premiers peuples au Québec.
Je suis venue au Québec de très loin pour étudier les littératures autochtones francophones. Même si mon pays, l'Argentine, se trouve dans l'autre bout du continent, ce qui m'a amenée ici, c'est d'abord l'intuition, puis le constat, qu'il y a certainement des liens à faire entre les littératures autochtones du nord et du sud du continent. Ayant fait des études en traduction à l'Université de La Plata, en Argentine, je souhaite pouvoir contribuer à construire des ponts entre ces cultures, et même entre ces autrices et auteurs qui ont beaucoup à se dire. Je voudrais aider à briser le silence qui est parfois imposé seulement par les barrières de la langue. Pourtant, en tant que traductrice et en tant que chercheuse universitaire, je suis consciente que la traduction n'est pas une activité simple. D'abord, car les langues sont liées à des cultures qui portent en elles des visions du monde et mobilisent donc des façons différentes de les exprimer. Ensuite, parce que la traduction est aussi un phénomène éditorial où se jouent des questions de pouvoir, tant symboliques que économiques. Quand j'ai découvert que le roman Questipan de Naomi Fontaine avait été traduit vers l'espagnol et publié par une maison d'édition espagnole, j'ai voulu immédiatement le lire pour savoir comment ces deux éléments qui complexifient la traduction étaient présents dans le texte. Dans d'autres mots, je voulais savoir quelles problématiques des traductions pouvaient surgir dans les passages du français de Naomi Fontaine vers l'espagnol, et comment la résolution de ces problématiques était liée au contexte de publication du livre en Espagne. En fait, j'étais étonnée d'apprendre que ces livres d'une autrice inoue avaient été traduits en Europe, car je pense que sa thématique est beaucoup plus proche des expériences des premiers peuples de l'Amérique latine que du public européen. En même temps, cela n'est pas tellement surprenant parce que l'Europe occupe une place centrale dans le marché de la traduction et dans la circulation des textes au niveau international. Mais c'est cette place que je voudrais mettre en question, car elle me semble liée à une domination coloniale qui continue à accumuler des ressources, tant économiques que symboliques, et je suis convaincue que l'Amérique latine mérite de prendre sa place dans la traduction et la circulation de textes autochtones. L'espagnol est une langue parlée presque partout dans le continent, et beaucoup de personnes des Premières Nations de l'Amérique latine ont l'espagnol comme première ou deuxième langue. En fait, très peu de textes d'auteurs ou autrices autochtones du Québec ont été traduits vers l'espagnol. À part des publications d'extraits traduits dans des sites web pour des raisons particulières, à ma connaissance, on a seulement publié en Espagne le roman Questipan de Naomi Fontaine, paru en 2020 chez la maison d'édition Pepita de Calabaza, et Cucum de Michel Jean, publié en 2022 chez Tiempo de Papel. Les deux ont été traduits par la même traductrice, Luisa Lucuy. Puis, en Argentine, on a publié chez Malizia en 2021 une anthologie des poèmes de Joséphine Bacon, Natacha Canapé Fontaine et Virginia Pesemapeo Bordelot, appelé « Mujer Tierra, Mujer Poema ». C'était un projet de traduction collective déroulé à l'Université de La Plata, dirigé par Leonor Sara et Julia Zaparart, où j'ai eu le plaisir de participer. C'est en partie grâce à cette expérience que je peux me permettre d'analyser la traduction européenne et de comparer la méthode de la traductrice espagnole avec les démarches que nous avons mises en place dans notre contexte latino-américain. J'aimerais me pencher sur l'étude de la traduction de Questipan, car il s'agit d'une œuvre paradigmatique. Selon certains critiques, comme Daniel Chartier, c'est un roman qui a marqué l'ouverture d'un nouveau corpus, autochtone et inou, dans le milieu littéraire du Québec. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille fortement de le faire, L'œuvre est souvent citée en tant que roman poétique. En effet, elle est composée de 66 textes courts qui construisent de manière fragmentaire, dans un jeu entre le dit et le non-dit, une image de la vie quotidienne de certains personnages dans la réserve Innue de Ouachat. Elle crée le portrait, par exemple, de la fille au ventre rond, de l'homme au tambour, ou de celui qui part de la réserve pour aller en ville. Ces images particulières, qui donnent vie à des personnages spécifiques, contribuent à actualiser et à redéfinir l'identité Innue contemporaine. Ils nous amènent à nous défaire des stéréotypes et des images figées, car ils témoignent des rapports complexes que ces personnages entretiennent avec le territoire, la langue, la mémoire et les traumatismes. Dans son roman, Naomi Fontaine souhaite mettre en lumière la réalité actuelle des réserves autochtones, et cela ne se fait pas sans douleur. Dès le début, elle évoque la difficulté de raconter. Elle dit « J'aurais aimé que les choses soient plus faciles à dire, à compter, à mettre en page, sans rien espérer, juste être comprise. Mais qui veut lire des mots comme drogue, inceste, alcool, solitude, suicide, chèque en bois, viol? J'ai mal et je n'ai encore rien dit. Je n'ai parlé de personne. Je n'ose pas. » Pourtant, en même temps, Naomi Fontaine réussit à mettre en valeur la beauté de son peuple. Elle revalorise les liens communautaires, l'importance de la mémoire et de la transmission culturelle. Elle met également en scène le rapport des Innus au territoire traditionnel, le Nutchimit, espace propice pour la guérison, pour la rencontre de soi-même, à travers la reconnexion offerte par la nature, gardienne de la mémoire. Elle dit « Nutchimit, un terrain inconnu, mais non hostile pour celui qui cherche le repos de l'esprit. Autrefois, ces forêts étaient habitées par des hommes, des femmes, qui prenaient de leurs mains ce que la terre leur offrait. Ils n'y sont plus, mais ils ont laissé sur les rochers l'eau des chutes et le verre des épinettes, leur empreinte, leur regard. Nutchimit, pour l'homme confus, c'est la paix, cette paix intérieure qu'il recherche désespérément. » Pour l'universitaire Myriam Sangelé, Naomi Fontaine fait partie d'une nouvelle période historique de la littérature Innue, à côté d'autrices telles que Anantan Kapesh et Joséphine Bacon. Cependant, Fontaine se démarque des autres deux autrices nommées car sa langue d'écriture est d'abord le français, même si elle introduit des termes en langue Innue dans ses récits. L'utilisation de la langue française ou anglaise est un thème important pour la critique des littératures autochtones qui s'est parfois occupée d'étudier les tensions existantes entre langue coloniale et langue autochtone à l'intérieur des textes. Mais si les auteurs et autrices jouent avec ces tensions et ces relations complexes entre les langues et les cultures dans leur écriture, comment transférer tout cela dans la traduction qui se fait d'une langue coloniale à une autre? Dans le champ de littérature autochtone du Québec, les processus de traduction internationaux sont récents et encore peu nombreux. Ils suscitent souvent des questions pertinentes pour la traductologie. Par exemple, qui est traduit et qui ne l'est pas? À quoi répond le choix des éditeurs? Qui traduit, qui a le droit de traduire et pourquoi? Comment traduit-on des littératures autochtones où le poids symbolique du territoire est incontournable en contexte allochtone européen? Faut-il passer par l'Europe pour traduire le texte dans une langue qui n'est pas une des langues officielles du Canada? Il existe, certes, des raisons culturelles, économiques et politiques qui maintiennent encore aujourd'hui la centralité de l'Europe comme foyer du marché mondial de la traduction. Mais quelles sont les pertes qu'une telle circulation peut produire pour les textes, pour le lectorat, pour leurs autrices et auteurs? Et en particulier, les littératures autochtones qui participent d'une démarche décoloniale ne pourraient-elles pas bénéficier d'un autre type de circulation, par exemple en Amérique latine, où les expériences partagées de la colonisation et les revendications actuelles des peuples autochtones seraient mises en avant? Toutes ces questions sont reflétées dans la matérialité du texte traduit. Quand on le lit, on peut y voir et interpréter la position prise par la traductrice. On va alors lire un extrait du texte pour voir un exemple d'un type de problématique qui peut survenir lors de la traduction espagnole. Il vient de la page 33 de Cuesipan, dans un passage où la narratrice décrit son déplacement dans la route. Elle dit « Il n'y a pas d'arrêt obligatoire, mais un plein d'essence ne suffit pas. Aux Escoumins, il y a une station-service dans laquelle, à la présentation d'une carte, on ne paye pas les taxes. Si l'on n'est pas indien, le détour est inutile. » La traduction espagnole dit « No hay que pararse obligatoriamente, pero con un tanque de gasolina no basta. En los Escoumins, hay una gasolinera en la que, presentando una tarjeta, no se pagan impuestos. Si no se es indio, desviarse es inútil. » Ici, il y a au moins deux éléments à observer. D'abord, pour quelqu'un qui ne vient pas du Canada et qui ne connaît pas l'histoire des Premières Nations, il est difficile de savoir qu'il existe une loi qui octroie le statut d'Indien, et donc la carte d'Indien, à certaines personnes et que ce statut leur permet de ne pas payer certains impôts. La traductrice avait inclus des notes en bas des pages dans d'autres contextes. Pourquoi donc ne pas le faire ici aussi? En deuxième lieu, cet extrait montre l'utilisation du terme « indien », un mot portant plusieurs connotations socio-historiques et qui mérite d'être discuté. Si il était d'usage courant au Québec il y a plusieurs années, aujourd'hui, il est souvent critiqué puisqu'il reflète surtout la perspective du colonisateur. Même si le mot est encore employé dans certains contextes, comme par exemple celui imposé par la loi sur les Indiens, comme on peut voir dans l'extrait cité, beaucoup de personnes autochtones préfèrent d'être nommées par le nom de leur nation, comme le fait Naomi Fontaine à plusieurs reprises quand elle parle des Innus. C'est le même cas en Amérique latine où parler des « indios » renverrait à une vision coloniale percevant les peuples autochtones comme quelque chose du passé. En Argentine, par exemple, on préfère souvent parler des « pueblos originarios » ou nommer également chaque nation de manière différenciée. Ce débat est linguistique, mais aussi politique, car il relève des positionnements face à l'identité des communautés autochtones qui sont largement marginalisées partout dans les Amériques. Et pourtant, cette réflexion n'est pas présente dans la traduction espagnole. Le terme « indio » y est introduit comme s'il était anodin, comme s'il ne portait pas toutes les charges culturelles, sociales, historiques et politiques qu'il peut éveiller. Je me demande si le public espagnol serait sensible à ce sujet. En tout cas, la traductrice a le droit d'intervenir sur le texte quand il pose des problématiques tellement importantes. Elle possède des outils, comme les notes en bas de page, les préfaces ou les postfaces pour aborder ces sujets. Mais je sais aussi que parfois, ces décisions n'appartiennent pas à la traductrice qui est soumise aux normes de la maison d'édition. Maintenant, vous serez peut-être d'accord avec moi si j'affirme que traduire n'est jamais un acte innocent ou anodin. Les décisions et les stratégies des traductions produisent des effets sur les textes, sur ce qu'ils communiquent, mais aussi sur l'image de l'autrice, sur l'ensemble de ses œuvres et, plus largement, dans ce cas, sur le développement d'un champ littéraire autochtone international. D'ailleurs, les traductions, si elles ont du succès, ont souvent des effets sur la langue et sur la culture d'arrivée, en apportant de nouveaux mots ou en installant de nouveaux sens pour des mots déjà existants. D'où l'importance d'analyser les paradoxes d'une traduction en langue coloniale et outre-Atlantique et la possibilité de penser à une manière alternative de faire circuler les textes, une manière qui échappe les circuits hégémoniques européens. En ce sens, on peut considérer le potentiel de traduire vers l'espagnol des littératures autochtones du Québec en Amérique latine, où de nombreuses Premières Nations partagent avec celles du Canada non seulement un passé marqué par les pratiques colonisatrices européennes de domination, mais aussi un présent signé par les luttes de revendication de leurs droits, leur langue, leur culture, leurs identités et leur territoire. J'ai mentionné avant qu'un des effets de Kwesipan et de sa structure fragmentaire est de donner un nouveau sens à l'identité innu, plus complexe, plus riche, qui défie toute image figée, tout stéréotype. Naomi Fontaine arrive à faire cela grâce au pouvoir de sa langue littéraire. Et j'aimerais montrer que, dans le sud des Amériques, il y a des écrivaines autochtones qui travaillent exactement dans la même direction. Je vais citer le mot de Viviana Chilef, poète mapuche d'Argentine, en la traduisant vers le français. Elle dit « Ils ont voulu nous ramener à tous les stéréotypes. Nous leur avons tous échappé. Nous résistons à l'image du souffrant, prosterné, élégiaque indien presque enfant qui demande l'abri. Une image qui a pu être, cependant, poétique. Et à celle du séditieux tireur de flèches ou de bombes. Une image active, des racines clairement politiques. Mais nous ne pleurons pas, nous parlons. Et nous n'attaquons pas, nous disons. Nous voulons partager un récit par la poésie sur ce qui brise notre cœur, ce qui le maintient élevé. Car la poésie abreuve aussi dans l'eau. La poésie permet de parler sur cela, car rien n'échappe à son immense potentiel d'action et de guérison, d'amour résolu. La poésie, le langage poétique est donc un espace d'action qui permet de se créer une identité et de le faire contre tout stéréotype de l'imaginaire colonial. La langue pourrait aussi devenir un territoire de rencontres entre les poètes du Nord et du Sud. La traduction vers l'espagnol pourrait permettre aux écrivaines autochtones du Québec de rejoindre le corpus d'écrivaines autochtones d'Amérique latine et de résonner comme l'écho du tambour partout dans le continent. Comme la parole de Naomi Fontaine et celle de Joséphine Bacon ou Anantan Kapesh, mais aussi la parole de Viviana Chilef et des centaines d'autres poètes mapuche, maya, quechua, guarani, aymara. La traduction montrerait ainsi sa puissance décolonisatrice, sa capacité d'ouvrir des discussions urgentes, non seulement au Canada, mais aussi dans le reste des Amériques. Les langues coloniales peuvent fonctionner comme des ponts. Elles peuvent établir des liens entre les différentes cultures autochtones du continent. Ces langues coloniales qui habitent partout en Amérique et qui nous habitent, nous avons le droit, la possibilité, sinon le devoir, de les transformer en outils décoloniales. Grâce à l'écriture des autrices et auteurs autochtones, nous pouvons trouver les espaces poétiques qui nous permettront d'employer les langues coloniales en tant qu'expression de l'autonomie et de la liberté. Merci.
Cet épisode de Balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, de l'Université Laval, avec l'appui d'Hydro-Québec, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 12e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Recherche et narration, Anna Kantsipolsky-Tekman. Technique sonore et montage, Caroline Belzile-Normand. Montage et musique, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette.
Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.